France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump a-t-il lancé une guerre commerciale à l'échelle mondiale hier, faisant fi des règles de l'OMC? Le président américain a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques sur toutes les marchandises importées. On s'interrogera également sur les plans de l'administration américaine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce matin, le vice-président assure que les États-Unis pourraient recourir à une éventuelle action militaire si le président russe n'acceptait pas un accord de paix qui garantisse l'indépendance à long terme de l'Ukraine. J.D. Vance, qui rencontrera par ailleurs aujourd'hui Volodymyr Zelensky à l'occasion de la conférence sur la sécurité à Munich. On en parlera avec notre invité. Enfin, toujours à Munich, mais s'agissant cette fois-ci de l'attaque perpétrée hier et qui a fait 36 blessés selon un dernier bilan, les autorités estiment qu'en l'état, l'enquête pourrait conclure à une motivation religieuse. C'est donc la dernière provocation en date de Donald Trump. Hier, le président américain a franchi une nouvelle étape dans son escalade protectionniste en posant les bases, ni plus ni moins, d'une guerre commerciale au niveau mondial. Celui dont la notoriété se limitait en 1987 aux pages People des tabloïds new-yorkais n'a décidément rien oublié de son best-seller, vendu à l'époque 1 million d'exemplaires, L'art du deal. C'est sur cette base qu'il s'est appuyé pour se lancer en politique. C'est très exactement la manière dont il a choisi d'exercer le pouvoir aujourd'hui. En l'occurrence, le président américain a demandé à son gouvernement de plancher sur la mise en œuvre de droits de douane réciproques avec tous les pays de la planète, quitte à piétiner les règles internationales en vigueur depuis des décennies. Alors l'ordonnance ne va pas jusqu'à imposer immédiatement ces droits de douane, comme le craignaient de nombreuses capitales étrangères, mais demande au ministère du Commerce de fournir des rapports sur les mesures à prendre pour obtenir un statut commercial réciproque, en clair, taxer les achats auprès de ses partenaires avec des taux équivalents à ceux qu'ils imposent aux exportations américaines. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Le terme réciproque, lorsqu'il est utilisé dans le contexte du commerce, fait généralement référence aux mesures prises donc par les deux parties pour garantir l'équité du commerce bilatéral. Sauf qu'ici, Nathanaël, Donald Trump menace de mettre fin à ce système au profit d'un autre déterminé uniquement par lui-même et basé sur ses propres critères.
Oui, tout à fait. Alors le concept, tout d'abord, est simple. Vous savez, si vous taxez de X% les produits américains, eh bien les États-Unis taxeront de X% vos produits, et cela sans tenir compte des spécificités liées notamment aux économies des plus fragiles. On pense au Brésil, à la Malaisie, au Vietnam ou encore à l'Inde. Et qu'importe donc si cela va à l'encontre des règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et que cela déclenche une guerre commerciale entre tous ces pays. À chaque fois d'ailleurs, Donald Trump fonctionne de la même façon. C'est un peu la politique du coup de pied dans la fourmilière. Il menace avant de se mettre autour de la table et de se mettre autour de la table des négociations. Ce fut le cas encore dernièrement avec l'épisode de l'acier qu'il a opposé au Canada, au Mexique et à la Corée du Sud. Avec les droits réciproques, même approche, avec toutefois un impact différent, notamment pour les pays les plus pauvres qui exportent parfois plus de 40% de leur production vers les États-Unis et dont la survie dépend de ces exportations. Menace terrible donc, mais qui peut aussi avoir son revers, car taxer les produits étrangers qui arrivent sur le marché américain, cela veut dire une inflation plus forte aux États-Unis, et cela, ni Wall Street, ni les Américains ne risquent de l'apprécier.
Merci Nathanaël Charbonnier. Après sa bromance avec Donald Trump lors de son premier mandat, le Premier ministre indien était impatient de prolonger sa relation d'amitié et plus encore sans doute d'échapper justement aux foudres commerciales de Washington. Hier, les deux hommes se sont finalement retrouvés dans le bureau ovale, affichant leur proximité à grand renfort d'effusion et de compliments publics, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Ferrar, le leader ultranationaliste hindou, a même participé à une conférence de presse conjointe avec le locataire de la Maison Blanche. Alors les sujets de tension bilatérale existent pourtant bel et bien. Le commerce, les droits de douane, mais aussi les relations avec la Russie, l'immigration. Mais New Delhi a déjà donné des gages de bonne volonté, par exemple en acceptant le rapatriement de 110 migrants expulsés par les États-Unis. Enfin, Donald Trump et Narendra Modi ont convenu de démarrer des négociations sur le déséquilibre commercial entre leurs deux pays.
Quelle forme pourrait prendre un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine?
Après l'annonce par Donald Trump, toujours lui, de l'ouverture de négociations avec son homologue Vladimir Poutine, si la configuration coopération uniquement bilatérale de ces pourparlers entre Américains et Russes est assez largement perçue comme une trahison par les Ukrainiens d'une part et la preuve de la faible influence des Européens d'autre part. De telles discussions, même à travers une approche purement transactionnelle, s'annoncent encore longues et difficiles avant d'imaginer qu'elles puissent éventuellement se concrétiser. Par ailleurs, et si les frustrations comme les inquiétudes sont toujours grandes, hier, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a refusé de dramatiser la situation. Il nourrit encore l'espoir d'une façon ou d'une autre que l'Alliance Atlantique pèse dans la balance. Quant au président du Conseil européen, Antonio Costa, il est à son tour sorti de son silence. Il n'y aura pas de paix durable sans l'Ukraine et sans l'UE, a-t-il insisté, mettant en garde contre un simple cessez-le-feu. Alors contre ce scénario d'une possible mauvaise paix imposée, la question des garanties de sécurité joue un rôle central. Or, une première réponse, Valérie Crova, a déjà été apportée ce matin même dans les colonnes du Wall Street Journal par le vice-président américain.
Tout sera sur la table. Dans cette interview, J.D. Vance n'exclut aucune hypothèse pour faire levier sur la Russie, outil de pressions économiques et outil de pression militaire. Si le Kremlin n'acceptait pas un accord de paix avec l'Ukraine qui garantisse son indépendance à long terme. Et J.D. Vance d'assurer que Donald Trump ne va pas s'engager dans des négociations avec des œillères. Prudent, le vice-président américain ne précise pas quelle partie du territoire ukrainien resterait aux mains de la Russie ou quelle garantie de sécurité les États-Unis et les alliés occidentaux de l'Ukraine pourraient offrir à Kiev. Ces détails devront être réglés dans le cadre des pourparlers de paix, ajoute-t-il, tout en précisant que l'administration Trump va tout faire pour que Vladimir Poutine obtienne davantage à la table des négociations que sur le champ de bataille. Cela suffira-t-il à rassurer Volodymyr Zelensky? Les deux hommes ont prévu de se voir aujourd'hui avant la conférence sur la sécurité de Munich.
Et en attendant, c'est donc dans ce contexte géopolitique encore incertain que la nuit dernière, un drone russe aurait frappé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl, provoquant aussitôt un incendie qui depuis a été éteint. Alors le Kremlin s'est défendu ce matin en affirmant que ses forces ne lançaient pas d'attaque contre les installations nucléaires ukrainiennes. De son côté, Volodymyr Zelensky soutient le contraire, l'occasion de pointer une nouvelle fois le danger que représente Moscou pour la planète tout entière. Toujours est-il que pour l'instant, les niveaux de radiation qui font l'objet d'une surveillance constante n'ont pas augmenté. En revanche, Agathe Mahuet, la structure, elle, est endommagée.
Oui, on distingue sur les images diffusées par les autorités ukrainiennes ce grand trou noirci sur le toit de l'immense structure qui recouvre en fait l'ancien sarcophage du réacteur numéro 4, celui qui avait explosé en 1986 dans cette centrale nucléaire de Tchernobyl. Un sarcophage vieillissant qui est donc protégé depuis 6 ans maintenant par ce nouveau dôme d'acier, une arche construite à 100 mètres de haut sur 160 de large, à la fois pour confiner les matières radioactives de l'ancien réacteur et pour abriter aussi les ateliers qui doivent permettre son démantèlement. C'est donc cette structure-là, récente et essentielle pour assurer la protection des lieux pendant 100 ans, qui a été touchée par ce drone explosif la nuit dernière, vers 1h du matin. Des équipements sont endommagés à l'intérieur, mais il n'y a pas de hausse des radiations, d'après le président ukrainien. Malgré tout, la Russie d'aujourd'hui est le seul pays au monde qui attaque de tels sites, réagit Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'occuper des centrales nucléaires, celle de Zaporijjia, et de faire la guerre sans se soucier des conséquences. C'est une menace terroriste pour le monde entier, insiste encore le président ukrainien, au moment où la Russie, elle, prétend vouloir entamer avec les États-Unis des négociations pour la paix en Ukraine.
Alors, dans l'espoir de mieux cerner à quoi pourrait ressembler justement un hypothétique plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, nombreux sont ceux qui se tourneront sans doute à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche vers Munich, où doit se tenir la conférence annuelle sur la sécurité et au cours de laquelle la nouvelle administration américaine rencontrera pour la première fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais pour le reste, force est de constater que l'heure est surtout aux conjectures et pour tenter malgré tout d'y voir un peu plus clair, invité de la rédaction aujourd'hui, Martin Quincé, directeur général à risque géopolitique et stratégie au German Marshall Fund des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis le début de la semaine, on a beaucoup dit que les déclarations de Trump semblaient très favorables à la Russie. Est-ce véritablement le cas? Pourquoi Washington aurait intérêt donc à satisfaire Moscou plutôt que Kiev? D'autant que s'agissant à la fois du non à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme du rejet d'un retour aux frontières de 2014, eh bien tous ces prérequis ne diffèrent pas vraiment des positions qui avaient été affichées jusque-là par l'administration Biden.
Mais Donald Trump s'est engagé auprès de ses électeurs à faire la paix rapidement en Europe. Il sait que pour cela, il faut d'abord avoir un accord avec Vladimir Poutine. C'est la Russie qui doit cesser l'invasion et donc il doit très vite trouver une manière de convaincre Vladimir Poutine qu'il est dans l'intérêt de la Russie de cesser l'invasion telle qu'elle a lieu depuis 2022. Dans ce cadre, il envoie un certain nombre de signaux évidemment très positifs pour que Vladimir entre en négociation avec Washington, et en cela il a déjà réussi une première étape. Mais on le voit avec les propos du vice-président américain J.D. Vance que vous mentionniez auparavant, que l'administration américaine veut aussi rassurer certains Européens qu'il n'était pas question d'abandonner la sécurité de l'Europe lors de ces négociations. Donc l'administration joue un peu sur les deux camps et garde tout le monde dans le flou.
Est-ce que ça veut dire que Donald Trump adopte ici, au fond, la même stratégie que celle qu'il utilise dans tous les domaines depuis son retour à la Maison-Blanche, c'est-à-dire lancer des initiatives choc, des déclarations à l'emporte-pièce pour profiter de l'effet de surprise et avoir la main in fine sur les discussions ?
Oui, la méthode est un petit peu la même. La différence, évidemment, que l'on note, c'est que dans un certain nombre de cas, il avait pris des positions maximalistes pour ensuite forcer la personne, l'interlocuteur, à accepter des concessions. Dans ce cas-là, on voit qu'il prend plutôt une position où il offre déjà des concessions à la Russie avant même de démarrer les négociations. Et donc ça a évidemment perturbé les Européens et les Ukrainiens qui se demandent pourquoi ces concessions sont faites oralement, avant même que la Russie ne les exige.
Si l'on se place du point de vue russe, justement, comment faut-il interpréter toute cette séquence ? Comment expliquer, par exemple, que Vladimir Poutine ait accepté de se prêter au jeu de la connivence mise en scène par Donald Trump ? Jusqu'à quel point cela sert les intérêts du Kremlin ?
Pour la Russie, les objectifs de la guerre en Ukraine n'ont pas beaucoup varié. On voit qu'il y a toujours la question de la neutralité de l'Ukraine, donc empêcher évidemment l'Ukraine d'appartenir à l'OTAN, mais également potentiellement à l'UE. La démilitarisation de l'Ukraine, le départ de Volodymyr Zelensky, la levée des sanctions, la reconnaissance de l'annexion d'un certain nombre de territoires par la Russie, tous ces points sont des objectifs de guerre qui peuvent être discutés avec Donald Trump. Et c'est en cela que pour Vladimir Poutine, évidemment, il y a un intérêt à ouvrir des négociations et à essayer de voir dans quelle mesure il peut obtenir ce qu'il a toujours souhaité.
Je l'évoquais en introduction, la conférence de Munich sur la sécurité s'ouvre donc aujourd'hui. Volodymyr Zelensky doit y rencontrer le vice-président et le chef de la diplomatie américaine. Que faut-il en attendre ?
Je pense qu'il y a vraiment une forme de division du travail entre le président américain et son administration. L'objectif est que Donald Trump puisse créer une forme de débat, parfois de chaos, en faisant des déclarations. Et ensuite, un certain nombre d'officiels sont là pour soit rationaliser, soit rassurer les acteurs de ce chaos. Ça sera l'objectif de J.D. Vance. Il enverra un certain nombre de messages très durs aux Européens en leur disant qu'il faut prendre le président américain au sérieux et que la paix doit avoir lieu en Ukraine, mais il enverra également des messages pour expliquer aux Européens qu'il y a encore d'autres options sur la table, que les Européens ont les moyens de participer aux négociations s'ils acceptent de faire ceci et cela. Et donc c'est une forme de méthode de négociation que l'on connaît assez bien avec l'administration Trump.
Est-ce que l'Union européenne a d'ailleurs vraiment les moyens de s'imposer à la table des futures négociations ?
L'Union européenne n'est pas forcément l'acteur le plus important ici. C'est, disons, l'Europe en tant que telle, puisque les Britanniques font évidemment partie aussi de ce calcul. La question pour les Européens, c'est est-ce que l'on peut convaincre Donald Trump que nous pouvons participer à la stabilité de la situation en Ukraine et au final à la sécurité de l'Europe ? Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de Donald Trump que un cessez-le-feu qu'il aurait lui-même signé s'avère être une catastrophe et un chaos total géopolitique en Europe qui, d'une certaine manière, affaiblirait sa propre crédibilité durant sa présidence. Et donc les Européens envoient des messages pour dire que les garanties de sécurité à l'Ukraine qui sont nécessaires pour le succès de ce cessez-le-feu ne peuvent venir que des Européens et nous devons donc faire partie des négociations.
C'est noté, merci. Martin Quincé, donc directeur général risque géopolitique et stratégie au German Marshall Fund des États-Unis, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Le dernier bilan de l'attaque à la voiture Bélier hier visant une manifestation à Munich fait état de 36 blessés.
Et tout porte à croire qu'il s'agit là d'un attentat, ce qui le cas échéant porterait à 3 le nombre d'attaques perpétrées en Allemagne en l'espace de 2 mois à peine, électrisant un peu plus encore la campagne électorale en cours déjà dominée par les questions d'insécurité et d'immigration. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture en Allemagne ce matin. Les autorités ont dit avoir identifié une certaine orientation islamiste du jeune Afghan de 24 ans arrêté hier sur les lieux du drame, ajoutant que l'enquête en l'état, Sébastien, laissait conclure à une motivation religieuse.
Oui Thomas, c'est exactement ça. Depuis 24 heures, les enquêteurs passent au crible le téléphone portable du suspect, ses ordinateurs. Ils épluchent aussi ses messages sur les réseaux sociaux et ont perquisitionné le logement qu'il louait dans la capitale bavaroise. Hier, le jeune Afghan de 24 ans a pu être interrogé pendant 2 heures et la procureure de Munich, Gabrielle Tillmann, évoque des motivations religieuses.
L'auteur des faits a posté différents messages qui avaient un rapport avec la religion. Par exemple, un message où il écrivait « Oh Allah, protège-nous toujours ». Après les faits, l'accusé a dit « Allahu Akbar » aux policiers. Il a reconnu avoir délibérément percuté les participants à la manifestation. Ce qu'il a dit à ce sujet suggère une motivation religieuse. D'après tout ce que nous savons pour l'instant, je pourrais dire qu'il s'agit d'une motivation islamiste.
Rien n'indique en revanche que le suspect était lié à l'État islamique, dit encore la procureure. Farhad Ed, adepte des compétitions de culturisme, est arrivé en Allemagne en 2016. Sa demande d'asile avait été rejetée, mais il restait toléré comme résident car il travaillait comme agent de sécurité. 140 policiers enquêtent sur l'affaire, ils doivent interroger une centaine de témoins. À Munich, l'endroit où la Mini Cooper a foncé hier dans la foule a été transformé en lieu de recueillement avec des bougies et des fleurs. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est venu déposer une rose blanche ce matin. Parmi les 36 blessés, 2 sont entre la vie et la mort, dont une fillette de 2 ans.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Kamel Daoud a signé en justice en France pour non-respect de la vie privée. Une femme l'accuse d'avoir volé son histoire pour en faire le cœur de l'intrigue de son roman Houri, prix Goncourt 2024. Une première audience de procédure est prévue le 7 mai prochain au tribunal judiciaire de Paris.
Avec 61% des Français qui s'y connectent chaque semaine, la plateforme est devenue bien plus qu'un simple réseau social.
YouTube fête aujourd'hui même ses 20 années d'existence. Or, le site internet de mise en ligne de vidéos verra tous basé sur l'idée du broadcast yourself, c'est-à-dire le fait de se diffuser soi-même, s'est imposé depuis comme un acteur majeur du paysage numérique hexagonal. La plateforme a par ailleurs très vite été rachetée par Google, c'était en 2006, et elle a même vu l'avènement désormais d'un nouveau métier à part entière qu'a mis Salcedo-Ruiz, celui de YouTuber.
19 secondes, c'est la durée de la toute première vidéo diffusée sur YouTube en 2005, intitulée Me at the Zoo. L'un des fondateurs y commente sa visite au zoo de San Diego devant les éléphants. 20 ans plus tard, la plateforme n'est plus la même, quand pour beaucoup, comme pour Alexandre Calvez, l'aventure a débuté en 2011 de façon artisanale.
J'ai commencé parce que je regardais d'autres créateurs et que j'avais envie de faire la même chose. Donc j'ai commencé à faire des vidéos dans ma chambre lorsque j'avais 17 ans, tout seul, en film. Moi-même, tout de A à Z, et au fil du temps, pour pouvoir répondre aux besoins de production, je me suis entouré de personnes, notamment pour m'aider sur la recherche éditoriale des sujets ou par exemple sur le montage.
Aujourd'hui, Alexandre Calvez teste en vidéo des produits électroménagers et c'est une agence qui mobilise pour lui des monteurs, des analystes data, des auteurs pour ses scripts, des équipes qui ont transformé la plateforme, explique Judith Caceres, docteur en sciences de l'information et de la communication.
Les formats ont évolué, la narration sur YouTube a évolué. Le métier donc s'est légitimé, il y a un marché qui s'est créé et il y a vraiment un écosystème. Donc cette image du YouTuber seul dans sa chambre s'efface de plus en plus. Même si les créateurs eux-mêmes jouent encore là-dessus, les créateurs coopèrent avec des boîtes de production, par exemple issues de la télévision, ou encore avec des boîtes de production, je pense notamment à des plateformes comme Netflix, Prime, etc.
À tel point que YouTube se targue depuis novembre d'être la première chaîne de télévision en France, avec plus de 42 millions d'utilisateurs par mois. Mais les propos ont été démentis par Médiamétrie, qui estime que la plateforme ne répond pas aux critères stricts, notamment légaux, imposés à une chaîne télévisée.
Quand tout à coup un inconnu vous offre des fleurs, sachez qu'il ne vous veut pas forcément du bien en ce jour de Saint-Valentin. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir publie des analyses en laboratoire sur des bouquets de fleurs qui révèlent une contamination massive par des pesticides, dont certains interdits en Europe. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour du soleil sur la majeure partie du territoire, à l'exception toutefois du littoral atlantique. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.